Chapitre 18 et suivant. La citoyenne Gamelin aimait le vieux Brotteau et le tenait pour l'homme tout ensemble le plus aimable et le plus considérable qu'elle eût jamais approché. Elle ne lui avait pas dit adieu quand on l'avait arrêté, parce qu'elle eut craint de braver les autorités et que dans son humble condition, elle regardait la lâcheté comme un devoir. Mais elle avait reçu un coup dont elle ne se relevait pas. Elle ne pouvait manger et déplorait qu'elle eût perdu l'appétit au moment où elle avait enfin de quoi le satisfaire. Elle admirait encore son fils, mais elle n'osait plus penser aux épouvantables tâches qu'il accomplissait et se félicitait de n'être qu'une femme ignorante pour n'avoir pas à le juger. La pauvre mère avait retrouvé un vieux chapelet au fond d'une malle. Elle ne savait pas bien s'en servir, mais elle en occupait ses doigts tremblants. Après avoir vécu jusqu'à la vieillesse sans pratiquer sa religion, elle devenait pieuse. Elle priait Dieu toute la journée au coin du feu pour le salut de son enfant et de ce bon monsieur Brotteau. Souvent, Élodie l'allait voir. Elle n'osait se regarder et l'une près de l'autre parlait au hasard de choses sans intérêt. Un jour de pluviose, quand la neige qui tombait à gros flocons obscurcissait le ciel et étouffait tous les bruits de la ville, la citoyenne Gamelin, qui était seule au logis, entendit frapper à la porte. Elle tressaillit. Depuis plusieurs mois, le moindre bruit la faisait frissonner. Elle ouvrit la porte. Un jeune homme de 18 ou 20 ans entra, son chapeau sur la tête. Il était vêtu d'un carrick vert bouteille dont les trois collets lui couvraient la poitrine et la taille. Il portait des flottes à revers de façon anglaise. Ses cheveux châtains tombaient en boucle sur ses épaules. Il s'avança au milieu de l'atelier, et comme pour recevoir tout ce que le vitrage envoyait de lumière à travers la neige, et demeura quelques instants immobile et silencieux. Enfin, tandis que la citoyenne Gamelin le regardait interdite, « Tu ne reconnais pas ta fille ?» La vieille dame joignit les mains. « Ah, Julie, c'est toi ? Est-il possible ? Mais oui, c'est moi. Embrasse-moi, maman. » La citoyenne veuve Gamelin serra sa fille dans ses bras et mit une larme sur ce collet du carrick. Puis elle reprit avec un accent d'inquiétude. « Toi, à Paris ? Oh, maman, que n'y suis-je venue seule ? Moi, on ne me reconnaîtra pas dans cet habit. » En effet, le carrick dissimulait ses formes et elle ne paraissait pas différente de beaucoup de très jeunes hommes qui, comme elle, portaient les cheveux longs, partagés en deux masses. Les traits de son visage, fins et charmants, mais râlés, creusés par la fatigue, endurcis par les soucis, avaient une expression audacieuse et mâle. Elle était mince, avait les jambes longues et droites, ses gestes étaient aisés. Seule sa voix claire eût pu la trahir. Sa mère lui demanda si elle avait faim. Elle répondit qu'elle mangerait volontiers, et quand on lui eut servi du pain, du vin et du jambon, elle se mit à manger, un coude sur la table, belle et gloutonne, comme Cérès dans la cabane de la vieille Baobao. Puis, le verre encore sur ses lèvres, « Maman, sais-tu quand mon frère entrera ? Je suis venu lui parler. » La bonne mère regarda sa fille avec embarras et ne répondit rien. « Il faut que je le voie. Mon mari a été arrêté ce matin et conduit au Luxembourg. » Elle donnait ce nom de mari à Fortuné de Chassagne, ci-devant noble et officier dans le régiment de Bouillé. Il l'avait aimée quand elle était ouvrière de mode rue des Lombards, enlevée et emmenée en Angleterre, où il avait émigré après le 10 août. C'était son amant, mais elle ne trouvait plus décent de le nommer son époux devant sa mère. Et elle se disait que la misère les avait bien mariés et que c'était un sacrement que le malheur. Ils avaient plus d'une fois passé la nuit tous deux sur un banc dans les parcs de Londres et ramassé des morceaux de pain sous les tables des tavernes à Piccadilly. Sa mère ne répondait point et la regardait d'un œil morne. « Mais tu ne m'entends donc pas, maman? Le temps presse, il faut que je voie Évariste tout de suite. Lui seul peut sauver Fortuné. »« Julie, répondit la mère, il vaut mieux que tu ne parles pas à ton frère. » « Mais comment, que dis-tu, ma mère ?»«
Je dis qu'il vaut mieux que tu ne parles pas à ton frère de M. le Chassagne. »
« Mais maman, il le faut bien pourtant. »«
Mon enfant, Évariste ne pardonne pas M. le Chassagne de t'avoir enlevé. Et tu sais avec quelle colère il parlait de lui, quel nom il lui donnait. »«
Oui, il l'appelait corrupteur, » fit Julie avec un petit rire sifflant, en haussant les épaules.
Mais mon enfant, il était mortellement offensé. Évariste a pris sur lui de ne plus parler de M. de Chassagne. Et voilà 2 ans qu'il a soufflé mot de lui ni de toi. Mais ses sentiments n'ont pas changé, tu le connais. Il ne vous pardonne pas. Même maman, puisque Fortuné m'a épousé à Londres.
La pauvre mère leva les yeux et les bras.
Mais il suffit que Fortuné soit un aristocrate, un émigré, pour qu'Évariste te traite comme un ennemi.
Enfin, réponds, maman, penses-tu que si je lui demande de faire auprès de l'accusateur public et du comité de sûreté générale les démarches nécessaires pour sauver Fortuné, il n'y consentira pas?
Mais maman, ce serait un monstre s'il refusait.
Mon enfant, ton frère est un homme et un bon fils, mais ne lui demande pas, oh non, ne lui demande pas de s'intéresser à M. de Chassagne.
Écoute-moi, Julie, il ne me confie point ses pensées, et sans doute je ne serai pas capable de les comprendre, mais il est juge, il a des principes, il agit d'après sa conscience. Ne lui demande rien, Julie.
Ah, je vois que tu le connais maintenant. Tu sais qu'il est froid et sensible, que c'est un méchant, qui n'a que de l'ambition, de la vanité. Tu l'as toujours préféré à moi. Quand nous vivions tous les trois ensemble, tu me le proposais pour modèle. Sa démarche compassée, sa parole grave t'imposait. Tu lui découvrais toutes les vertus. Et moi, tu me désapprouvais toujours. Tu m'attribuais tous les vices, parce que j'étais franche et que je grimpais aux arbres. Tu n'as jamais pu me souffrir. Tu n'aimais que lui. Tiens, je le hais, ton Évariste. C'est un hypocrite. Tais-toi, Julie. J'ai été une bonne mère pour lui, comme pour lui. Je l'ai fait apprendre un état. Il n'a pas dépendu de moi que tu ne restes une bonne fille et que tu ne te maries selon ta condition. Je t'ai aimé tendrement et je t'aime encore. Je te pardonne et je t'aime. Mais ne dis pas de mal d'Évariste. C'est un bon fils. Il a toujours eu soin de moi. Quand tu m'as quitté, mon enfant, quand tu as abandonné ton état, ton magasin, pour aller vivre avec M. de Chassagne, que serais-je devenu sans lui? Je serais morte de misère et de faim.
Ne parle pas ainsi, maman. Tu sais bien que nous t'aurions entouré de soins. Fortuné et moi, si tu ne t'étais pas détourné de nous, excité par Évariste.
Laisse-moi tranquille. Il est incapable d'une bonne action. C'est pour me rendre odieuse à tes yeux qu'il a affecté de prendre soin de toi. Oh, lui, t'aimer.
Est-ce qu'il est capable d'aimer quelqu'un? Il n'a ni cœur ni esprit, il n'a aucun talent, aucun. Pour peindre, il faut une nature plus tendre que la sienne.
Elle promena ses regards sur les toiles de l'atelier qu'elle retrouvait telles qu'elle les avait quittées.
La voilà, son âme. Il l'a mis sur ses toiles, froide et sombre. Son oreste, l'œil bête, la bouche mauvaise et qui a l'air d'un empalé. C'est lui tout entier.
Enfin, maman, tu ne comprends donc rien. Je ne peux pas laisser Fortuné en prison.
Tu les connais, les Jacobins, les patriotes, toute la séquelle des varistes. Ils le feront mourir. Maman, ma chère maman, ma petite maman, je ne veux pas qu'on me le tue. Je l'aime, il a été si bon pour moi, et nous avons été si malheureux ensemble. Tiens, ce carrick, c'est un habit à lui, il n'avait plus de chemise. Un ami de fortuné m'a prêté une veste, et j'ai été chez un garçon limonadier à Douvres, pendant qu'il travaillait chez un coiffeur. Nous savions bien que revenir en France, c'était risquer notre vie. Mais on nous a demandé si nous voulions aller à Paris pour y accomplir une mission importante. Nous avons consenti, nous aurions accepté une mission pour le diable. On nous a payé notre voyage et donné une lettre de change pour un banquier de Paris. Nous avons trouvé les bureaux fermés. Ce banquier est en prison et va être guillotiné. Nous n'avions pas un rouge liard. Toutes les personnes à qui nous étions affiliés et qui nous pouvions nous adresser sont en fuite ou emprisonnées. Pas une porte ou frappée. Nous couchions dans une écurie de la rue de la Ferme sans tête. Un décrotteur charitable qui dormait sur la paille avec nous prêta à mon amant une de ses boîtes, une brosse et un pot de cirage aux trois quarts vides. Et fortuné, pendant 15 jours, a gagné sa vie et la mienne à cirer des souliers sur la place de Grève. Mais lundi, un membre de la commune mit le pied sur la boîte et lui fit cirer ses bottes. C'est un ancien boucher à qui fortuné a donné autrefois un coup de pied dans le derrière pour avoir vendu de la viande à faux poids. Et quand fortuné releva la tête pour réclamer ses 2 sous, le coquin le reconnut, l'appela aristocrate et le menaça de le faire arrêter. La foule s'amassa, elle se composait de braves gens et de quelques scélérats qui criaient « À mort l'immigré !» et appelaient les gendarmes. À ce moment, j'apportais la soupe à Fortuné. Je l'ai vu conduire à la section et enfermer dans l'église Saint-Jean. J'ai voulu l'embrasser, on me repoussa. J'ai passé la nuit comme un chien sur une marche de l'église. On l'a conduit ce matin. Julie ne put achever, les sanglots l'étouffaient. Elle jeta son chapeau sur le plancher et se mit à genoux aux pieds de sa mère. On l'a conduit ce matin dans la prison de Luxembourg. Maman, maman, aide-moi à le sauver, aie pitié de ta fille. Tout en pleurs, elle écarta son carrick et, pour se mieux faire reconnaître amante et fille, découvrit sa poitrine. Et prenant les mains de sa mère, elle les pressa sur ses seins palpitants. « Ma fille chérie, ma Julie !» soupira la veuve Gamelin. Et elle colla son visage humide de larmes sur les joues de la jeune femme. Durant quelques instants, elles gardèrent le silence. La pauvre mère cherchait dans son esprit le moyen d'aider sa fille et Julie épiait le regard de ses yeux noyés de pleurs. « Peut-être, songeait la mère d'Évariste, peut-être, si je lui parle, se laissera-t-il fléchir. Il est bon, il est tendre. Si la politique ne l'avait pas endurci, s'il n'avait pas subi l'influence des Jacobins, il n'aurait point dû de ces sévérités qui m'effraient, parce que je ne les comprends pas. » Elle prit dans ses 2 mains la tête de Julie. « Écoute, ma fille, je parlerai à Évariste. Je le préparerai à te voir, à t'entendre. Ta vue pourrait l'irriter et je craindrai le premier mouvement. Et puis, je le connais, cet habit le choquerait. Il est sévère sur tout ce qui touche aux mœurs, aux convenances. Moi-même, tu vois, j'ai été un peu surprise de voir ma fille en garçon. Ah, maman, mais l'émigration et les affreux désordres du royaume ont rendu ces travestissements bien communs. On les prend pour exercer un métier, pour n'être point reconnu, pour faire concorder un passeport ou un certificat emprunté. J'ai vu à Londres le petit Giret habillé en fille et qui avait l'air d'être une très jolie fille. Et tu conviendras, maman, que ce travestissement est plus scabreux que le mien. Ma pauvre enfant, tu n'as pas besoin de te justifier à mes yeux, ni de cela, ni d'autre chose. Je suis ta mère. Tu seras toujours innocente pour moi. Je parlerai à Évariste, je dirai. Elle s'interrompit. Elle sentait ce qu'était son fils. Elle le sentait, mais elle ne voulait pas le croire. Elle ne voulait pas le savoir. Il est bon, il fera pour moi, enfin pour toi, ce que je lui demanderai. Et les deux femmes, infiniment lasses, se turent. Julie s'endormit, la tête sur les genoux où elle avait reposé enfant. Cependant, son chapelet à la main, la mère douloureuse pleurait sur les mots qu'elle sentait venir silencieusement, dans le calme de ce jour de neige où tout se taisait, les pas, les roues, le ciel. Tout à coup, avec une finesse d'ouïe que l'inquiétude avait aiguisée, elle entendit son fils qui montait l'escalier. « Évariste, dit-elle, cache-toi !» Et elle poussa sa fille dans sa chambre. « Comment allez-vous aujourd'hui, ma bonne mère ?» Évariste accrocha son chapeau au porte-manteau, changea son habit bleu contre une veste de travail et s'assit devant son chevalet. Depuis quelques jours, il esquissait au fusain une victoire déposant une couronne sur le front d'un soldat mort pour la patrie. Il eût traité ce sujet avec enthousiasme, et le tribunal dévorait toutes ses journées, prenait toute son âme, et sa main, déshabituée du dessin, se faisait lourde et paresseuse. Il fredonna le « ça ira ». « Tu chantes, mon enfant, dit la citoyenne Gamelin, tu as le cœur gai. » Mais nous devons nous réjouir, ma mère. Il y a de bonnes nouvelles. La Vendée est écrasée, les Autrichiens défaits. L'armée du Rhin a forcé les lignes de Lauterne et de Wissembourg. Le jour est proche où la République triomphante montrera sa clémence. Mais pourquoi faut-il que l'audace des conspirateurs grandisse à mesure que la République croît en force et que les traîtres s'étudient à frapper dans l'ombre la patrie alors qu'elle foudroie les ennemis qui l'attaquent à découvert. La citoyenne Gamelin, en tricotant d'un bas, observait son fils par-dessus ses lunettes. « Berzélius, ton vieux modèle, est venu réclamer les 10 livres que tu lui devais. Alors je les lui ai remises. La petite Joséphine a eu mal au ventre pour avoir mangé trop de confiture que le menuisier lui avait donnée. Je lui ai fait de la tisane. » « Débailly est venu te voir. Il a regretté de ne pas te trouver. Il voudrait graver un sujet de ta composition. Il te trouve un grand talent. Oh, ce brave garçon a regardé tes esquisses et les a admirées. » « Quand la paix sera rétablie et la conspiration étouffée, dit le peintre, je reprendrai mon Oreste. Je n'ai pas l'habitude de me flatter, mais il y a là une tête digne de David. » Il traça d'une ligne majestueuse le bras de sa victoire. Elle tendait palme, dit-il, mais il serait plus beau que ses bras eux-mêmes fussent des palmes. Évariste, maman, j'ai reçu des nouvelles, devine de qui? Oh, je ne sais pas. De Julie, de ta sœur, elle n'est pas heureuse. Oh, ce serait un scandale qu'elle le fût. Mais ne parle pas ainsi, mon enfant. Elle est ta sœur. Julie n'est pas mauvaise. Elle a de bons sentiments que le malheur a nourris. Elle t'aime, je puis t'assurer, Évariste, qu'elle aspire à une vie laborieuse, exemplaire. Elle ne songe qu'à se rapprocher des siens. Rien n'empêche que tu la revoies. Elle a épousé Fortuné Chassagne. Elle nous a écrit? Non. Alors comment avez-vous eu de ces nouvelles, ma mère? Ce n'est pas une lettre, mon enfant, c'est... Il se leva et l'interrompit d'une voix terrible. Taisez-vous, ma mère. Ne me dites pas qu'ils sont tous les deux rentrés en France. Puisqu'ils doivent périr, que du moins ce ne soit pas par moi. Pour eux, pour vous, pour moi, faites que j'ignore qu'ils sont à Paris, ne me forcez pas à le savoir, sans quoi. Mais que veux-tu dire, mon enfant? Tu voudrais, tu oserais. Ma mère, écoutez-moi. Si je savais que ma sœur Julie est dans cette chambre, et il montra du doigt la porte close, j'irai tout de suite la dénoncer au comité de vigilance de la section. La pauvre mère, blanche comme sa coiffe, laissa tomber son tricot de ses mains tremblantes et soupira d'une voix plus faible que le plus faible murmure. Oh, je ne voulais pas le croire, mais je le vois bien, c'est un monstre. Aussi pâle qu'elle, l'écume aux lèvres, Évariste s'enfuit et courut chercher auprès d'Élodie l'oubli, le sommeil, l'avant-goût délicieux du néant. Chapitre 19. Pendant que le père Longuemare et la fille Athénaïs étaient interrogés à la section, Brotteau fut conduit entre deux gendarmes au Luxembourg, où le portier refusa de le recevoir, alléguant qu'il n'avait plus de place. Le vieux traitant fut mené ensuite à la conciergerie et introduit au greffe, pièce assez petite, partagée en deux par une cloison vitrée. Pendant que le greffier inscrivait son nom sur les registres d'écrou, Brotteau vit à travers les carreaux deux hommes qui, chacun sur un mauvais matelas, gardaient une immobilité de mort et l'œil fixe semblait ne rien voir. Des assiettes, des bouteilles, des restes de pain et de viande couvraient le sol autour d'eux. C'étaient des condamnés à mort qui attendaient la charrette. Le ci-devant des lisettes fut conduit dans un cachot où, à la lueur d'une lanterne, il entrevit deux figures étendues, l'une farouche, mutilée, hideuse, l'autre gracieuse et douce. Ces deux prisonniers lui offrirent un peu de leur paille pourrie et pleine de vermine pour qu'il ne couchât pas sur la terre souillée d'excréments. Brotteau se laissa choir sur un banc dans l'ombre puante et demeura la tête contre le mur, muet, immobile. Sa douleur était telle qu'il se sentait briser la tête contre les murs s'il en avait eu la force. Il ne pouvait respirer. Ses yeux se voilèrent, un long bruit, tranquille comme le silence, envahit ses oreilles. Il sentit tout son être baigné dans un néant délicieux. Durant une incomparable seconde, tout lui fut d'harmonie, clarté sereine, parfum, douceur. Puis, il cessa d'être. Quand il revint à lui, la première pensée qui s'empara de son esprit fut de regretter son évanouissement et, philosophe jusque dans la stupeur du désespoir, il songea qu'il lui avait fallu descendre dans un cul de basse-fosse en attendant la guillotine pour éprouver la sensation de volupté la plus vive que ses sens eussent jamais goûtée. Il s'essayait à perdre de nouveau le sentiment, mais sans y réussir. Et peu à peu, au contraire, il sentait l'air infect du cachot apporter à ses poumons, avec la chaleur de la vie, la conscience de son intolérable misère. Cependant, ses deux compagnons tenaient son silence pour une cruelle injure. Brotteau, qui était sociable, essaya de satisfaire leur curiosité. Mais quand ils apprirent qu'il était ce que l'on appelait un politique, un de ceux dont le crime léger était de parole ou de pensée, ils n'éprouvèrent pour lui ni estime ni sympathie. Les faits reprochés à ces deux prisonniers avaient plus de solidité. Le plus vieux était un assassin, l'autre avait fabriqué de faux assignats. Ils s'accommodaient tous deux de leur état et y trouvaient même quelques satisfactions. Brotteau se prit à songer soudain qu'au-dessus de sa tête, tout était mouvement, bruit, lumière et vie, et que les jolies marchandes du palais souriaient derrière leur étalage de parfumerie, de mercerie, aux passants heureux et libres, et cette idée accrue son désespoir. La nuit vint, inaperçue dans l'ombre et le silence du cachot, mais lourde pourtant et lugubre. Une jambe étendue sur son banc et le dos contre la muraille, Botto s'assoupit. Et il se vit assis au pied d'un hêtre touffu où chantaient les oiseaux. Le soleil couchant couvrait la rivière de flammes liquides et le bord des ruées était teint de pourpre. La nuit se passa. Une fièvre ardente le dévorait, il buvait avidement, à même sa cruche, une eau qui augmentait son mal. Le lendemain, le geôlier, qui apporta la soupe, promit à Brotto de le mettre à la pistole, moyennant finance, dès qu'il aurait de la place, ce qui ne tarderait guère. En effet, le surlendemain, il invita le vieux traitant à sortir de son cachot. À chaque marche qu'il montait, Brotto sentait rentrer en lui la force et la vie, et quand sur le carreau rouge d'une chambre, il vit se dresser un lit de sangles recouvert d'une méchante couverture de laine, il pleura de joie. Le lit doré où se becquetaient des colombes, qu'il avait jadis fait faire pour la plus jolie des danseuses de l'opéra, ne lui avait pas paru si agréable ni promis de telles délices. Ce lit de sangles était dans une grande salle, assez propre, qui en contenait 17 autres, séparées par de hautes planches. La compagnie qui habitait là, composée d'ex-nobles, de marchands, de banquiers, d'artisans, ne déplut pas au vieux publicain qui s'accommodait de toutes sortes de personnes. Il observa que ces hommes, privés comme lui de tout plaisir et exposés à périr par la main du bourreau, montraient de la gaieté et un goût vif pour la plaisanterie. Peu disposés à admirer les hommes, il attribuait la bonne humeur de ses compagnons à la légèreté de leur esprit, qui les empêchait de considérer attentivement leur situation. Et il se confirmait dans cette idée en observant que le plus inintelligent d'entre eux était profondément triste. Il s'aperçut bientôt que pour la plupart, ils puisaient dans le vin et l'eau de vie une gaieté qui prenait à sa source un caractère violent et parfois un peu fou. Ils n'avaient pas tous du courage, mais tous en montraient. Brotteau n'en était pas surpris. Il savait que les hommes avouent volontiers à la cruauté, la colère, l'avarice même, mais jamais la lâcheté, parce que cet aveu les mettrait, chez les sauvages et même dans une société polie, en un danger mortel. C'est pourquoi, songeait-il, tous les peuples sont des peuples de héros et toutes les armées ne sont composées que de braves. Plus encore que le vin et l'eau de vie, le bruit des armes et des clés, le grincement des serrures, l'appel des sentinelles, le trépidement des citoyens à la porte du tribunal enivraient les prisonniers, leur inspiraient la mélancolie, le délire ou la fureur. Il y en avait qui se coupaient la gorge avec un rasoir ou se jetaient par une fenêtre. Brotteau logeait depuis 3 jours à la pistole quand il apprit par porte-clé que le père Longuemare croupissait sur la paille pourrie dans la vermine avec les voleurs et les assassins. Il le fit recevoir la pistole dans la chambre qu'il habitait et où un lit était devenu vacant. S'étant engagé à payer pour le religieux, le vieux publicain, qui n'avait pas sur lui un grand trésor, s'ingénia à faire des portraits à un écu l'un. Il se procura, par l'intermédiaire d'un geôlier, de petits cadres noirs pour y mettre de menus travaux en cheveux qu'il exécutait assez adroitement. Et ses ouvrages furent très recherchés dans une réunion d'hommes qui songeaient à laisser des souvenirs. Le père Longuemare tenait haut son cœur et son esprit. En attendant d'être traduit devant le tribunal révolutionnaire, il préparait sa défense. ne séparant point sa cause de celle de l'Église, il se promettait d'exposer à ses juges les désordres, les scandales causés à l'épouse de Jésus-Christ par la constitution civile du clergé. Il entreprenait de peindre la fille aînée de l'Église, faisant au pape une guerre sacrilège. Le clergé français dépouillé, violenté et odieusement soumis à des laïcs, les réguliers, véritables milices du Christ, spoliés et dispersés. Il citait saint Grégoire le Grand et saint Irénée, produisait des articles nombreux de droit canon et des paragraphes entiers des décrétales. Toute la journée, il griffonnait sur ses genoux, au pied de son lit, trempant des tronçons de plumes usées jusqu'aux barbes dans l'encre, dans la suie, dans la marque de café, couvrant d'une illisible écriture papier à chandelle, papier d'emballage, journaux, garde-lits, vieilles lettres, vieilles factures, cartes à jouer, et songeant à y employer sa chemise après l'avoir passée à l'amidon. Il entassait, feuille sur feuille, et montrant l'indéchiffrable barbouillage, il disait « Quand je paraîtrai devant mes juges, je les inonderai de lumière. » Et un jour, jetant un regard satisfait sur sa défense sans cesse accrue, et pensant à ses magistrats qu'il brûlait de confondre, il s'écria « Je ne voudrais pas être à leur place. » Les prisonniers que le sort avait réunis dans ce cachot étaient ou royalistes ou fédéralistes. Il s'y trouvait même un jacobin. Ils différaient entre eux d'opinion sur la manière de conduire les affaires de l'État, mais aucun d'eux ne gardait le moindre reste de croyance chrétienne. Les feuillants, les constitutionnels, les girondins trouvaient, comme Brotteau, le bon Dieu fort mauvais pour eux-mêmes et excellent pour le peuple. Les jacobins installaient à la place de Jéhovah un dieu jacobin, pour faire descendre de plus haut le jacobinisme sur le monde. Mais comme ils ne pouvaient concevoir, ni les uns ni les autres, qu'on fût assez absurde pour croire à aucune religion révélée, voyant que le père Longuemare ne manquait pas d'esprit, ils le prenaient pour un fourbe. Afin, sans doute, de se préparer au martyr, il confessait, lui, sa foi en toute rencontre, et plus il montrait de sincérité, plus il semblait un imposteur. En vain Brotteau se portait garant de la bonne foi du religieux. Brotteau passait lui-même pour ne croire qu'en partie ce qu'il disait. Ses idées étaient trop singulières pour ne pas paraître affectées, et ne contentaient personne entièrement. Il parlait de Jean-Jacques Rousseau comme d'un plat coquin. Par contre, il mettait Voltaire au rang des hommes divins, sans toutefois l'égaler à l'aimable Helvétius, à Diderot ou au baron d'Holbach. À son sens, le plus grand péril du gérant génie du siècle était Boulanger. Il estimait beaucoup aussi l'astronome Lalande et Dupuis, auteur d'un mémoire sur l'origine des constellations. Les hommes d'esprit de la Chambrée faisait au pauvre Barnabite mille plaisanteries dont il ne s'apercevait jamais. Sa candeur déjouait tous les pièges. Pour écarter les soucis qui les rongeaient et échapper aux tourments de l'oisiveté, les prisonniers jouaient aux dames, aux cartes et aux tric-trac. Il n'était permis d'avoir aucun instrument de musique. Après souper, on chantait, on récitait des vers. La pucelle de Voltaire mettait un peu de gaieté au cœur de ces malheureux qui ne se lassaient pas d'en entendre les bons endroits. Mais ne pouvant se distraire à la pensée affreuse plantée au milieu de leur cœur, ils essayaient parfois d'en faire un amusement, et dans la chambre des 18 lits, avant de s'endormir, ils jouaient au tribunal révolutionnaire. Les rôles étaient distribués selon les goûts et les aptitudes. Les uns représentaient les juges et l'accusateur, d'autres les accusés ou les témoins, d'autres le bourreau et ses valets. Les procès finissaient invariablement par l'exécution des condamnés, qu'on étendait sur un lit, le cou sous une planche. La scène était transportée ensuite dans les enfers. Les plus agiles de la troupe, enveloppés dans des draps, faisaient des spectres. Et un jeune avocat de Bordeaux nommé Dubosc, petit, noir, borgne, bossu, bancal, le diable boiteux en personne, venait, tout encorné, tirer le père Longuemare par les pieds hors de son lit, lui annonçant qu'il était condamné aux flammes éternelles et damné sans rémission pour avoir fait du créateur de l'univers un être envieux, sot et méchant, un ennemi de la joie et de l'amour. « Ah 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 !» criait horriblement ce diable. « Tu as enseigné, vieux bonze, que Dieu se plaît à voir ses créatures languir dans la pénitence et s'abstenir de ses dons les plus chers. Imposteur, hypocrite, cafard, assieds-toi sur des clous et mange des coquilles d'œufs pour l'éternité. » Le père Longuemare se contentait de répondre que, dans ce discours, le philosophe perçait sous le diable et que le moindre démon de l'enfer eût dit moins de sottises, étant un peu frotté de théologie et certes moins ignorant qu'un encyclopédiste. Mais quand l'avocat girondin l'appelait Capucin, il se fâchait tout rouge et disait qu'un homme incapable de distinguer un barnabite d'un franciscain ne saurait pas voir une mouche dans du lait. Le tribunal révolutionnaire vidait les prisons que les comités remplissaient sans relâche. En 3 mois, la chambre des 18 fut à moitié renouvelée. Le père Longuemare perdit son diablotin. L'avocat Dubosc, traduit devant le tribunal révolutionnaire, fut condamné à mort comme fédéraliste et pour avoir conspiré contre l'unité de la République. Au sortir du tribunal, il repassa, comme tous les autres condamnés, par un corridor qui traversait la prison et donnait sur la chambre qu'il avait animée 3 mois de sa gaieté. En faisant ses adieux à ses compagnons, il garda le ton léger, l'air joyeux qui lui était habituel. « Excusez-moi, monsieur, dit-il au père Longuemare, de vous avoir tiré par les pieds dans votre lit. N'y reviendrez plus. » Et se tournant vers le vieux Brotteau, « Adieu, je vous précède dans le néant. Je livre volontiers à la nature les éléments qui me composent, en souhaitant qu'elle en fasse à l'avenir un meilleur usage, car il faut reconnaître qu'elle m'avait fort mal réussi. » Et il descendit au greffe, laissant Brotteau affligé et le père Longuemare tremblant et vert comme la feuille, plus mort que vif, de voir l'impie rire au bord de l'abîme. Quand Germinal ramena les jours clairs, Brotteau, qui était voluptueux, descendit plusieurs fois par jour dans la cour qui donnait sur le quartier des femmes, près de la fontaine où les captives venaient le matin laver leur linge. Une grille séparait les deux quartiers, mais les barreaux n'en étaient pas assez rapprochés pour empêcher les mains de se joindre et les bouches de s'unir. Sous la nuit indulgente, des couples s'y pressaient. Alors Brotteau, discrètement, se réfugiait dans l'escalier et, assis sur une marche, tirait de la poche de sa redingote puce son petit Lucrèce et lisait, à la lueur d'une lanterne, quelques maximes sévèrement consolatrices. « Sic ubi non erimus, quand nous aurons cessé de vivre, rien ne pourra nous émouvoir, non pas même le ciel, la terre et la mer, confondant leurs débris. » Mais, tout en jouissant de sa haute sagesse, Brotteau enviait au barnabite cette foi au lit qui lui cachait l'univers. La terreur, de mois en mois, grandissait. Chaque nuit, les geôliers, ivres, accompagnés de leurs chiens de garde, allaient de cachot en cachot, portant des actes d'accusation, hurlant des noms qu'ils estropiaient, réveillaient les prisonniers, et pour 20 victimes désignées, on épouvantait 200. Dans ces corridors pleins d'ombres sanglantes, passaient chaque jour, sans une plainte, 20, 30, 50 condamnés, vieillards, femmes, adolescents, et si divers de conditions, de caractère, de sentiments, on se demandait s'ils n'avaient pas été tirés au sort. Et l'on jouait aux cartes, on buvait du vin de Bourgogne, on faisait des projets, on avait des rendez-vous la nuit à la grille. La société, presque entièrement renouvelée, était maintenant composée en grande partie d'exagérés et d'enragés. Toutefois, la chambre des 18 lits demeurait encore le séjour de l'élégance et du bon ton. Or, deux détenus qu'on y avait mis récemment, transférés du Luxembourg à la conciergerie, et qu'on suspectait d'être des moutons, c'est-à-dire des espions, les citoyens Navette et Bélier, il ne s'y trouvait que d'honnêtes gens qui se témoignaient une confiance réciproque. On y célébrait, la coupe à la main, les victoires de la République. Il s'y rencontrait plusieurs poètes, comme il s'en voit dans toute réunion d'hommes oisifs. Les plus habiles d'entre eux composaient des odes sur les triomphes de l'armée du Rhin et les récitaient avec emphase. Ils étaient bruyamment applaudis. Bonneteau seul louait mollement les vainqueurs et leurs chantres. « C'est, depuis Homère, une étrange manie des poètes, dit-il un jour, que de célébrer les militaires. La guerre n'est point un art, et le hasard décide seul du sort des batailles. De deux généraux en présence, tous deux stupides, il faut nécessairement que l'un d'eux soit victorieux. Attendez-vous à ce qu'un jour un de ces porteurs d'épée que vous divinisez vous avale tous comme la grue de la fable avale les grenouilles. C'est alors qu'il sera vraiment Dieu, car les dieux se connaissent, se reconnaissent à l'appétit. Bonneteau n'avait jamais été touché par la gloire des armes. Il ne se réjouissait nullement des triomphes de la République qu'il avait prévus. Il n'aimait point le nouveau régime qu'affermissait la victoire. Il était mécontent. On l'eût été à moins. Un matin, on annonça que les commissaires du comité de sûreté générale feraient des perquisitions chez les détenus, qu'on saisirait assignats, objets d'or et d'argent, couteaux, ciseaux, que de telles recherches avaient été faites au Luxembourg et qu'on avait enlevé lettres, papiers et livres. Chacun alors s'ingénia à trouver quelques cachettes ou mettre ce qu'il avait de plus précieux. Le père Longuemare porta par brassée sa défense dans une guillotière. Bonneteau coula son Lucrèce dans les cendres de la cheminée. Quand les commissaires, ayant au cou des rubans tricolores, vinrent opérer leur saisie, ils ne trouvèrent guère que ce qu'on avait jugé convenable de leur laisser. Après leur départ, le père Longuemare courut à sa gouttière et recueillit sa défense ce que l'eau et le vent en avaient laissé. Bonneteau retira de sa cheminée son Lucrèce tout noir de suie. « Jouissons de leur présente, songea-t-il, car j'augure un certain signe que le temps nous est désormais étroitement mesuré. » Par une douce nuit de prairial, tandis qu'au-dessus du préau, la lune montait dans le ciel pâli ses deux cornes d'argent, le vieux traitant, qui, à sa coutume, lisait Lucrèce avec un degré de l'escalier de pierre, s'entendit une voix l'appeler, une voix de femme, une voix délicieuse qu'il ne reconnaissait pas. Il descendit dans la cour et vit derrière la grille une forme qu'il ne reconnaissait pas plus que la voix et qui lui rappelait, par ses contours indistincts et charmants, toutes les femmes qu'il avait aimées. Le ciel la baignait d'azur et d'argent. Bonneteau reconnut soudain la jolie comédienne de la rue Feydeau, Rose Thévenin. « Vous ici, mon enfant ? Oh, la joie de vous y voir m'est cruelle, mais depuis quand et pourquoi êtes-vous ici ? Depuis hier ? » Et elle ajouta très bas, « J'ai été dénoncé comme royaliste On m'accuse d'avoir conspiré pour délivrer la reine. Et comme je vous savais ici, j'ai tout de suite cherché à vous voir. Écoutez-moi, mon ami, quand vous voulez bien que je vous donne ce nom. Je connais des gens en place. J'ai, je le sais, des sympathies jusque dans le comité de salut public. Je ferai agir mes amis. Ils me délivreront et je vous délivrerai à mon tour. Mais Brotteaux, d'une voix qui se fit pressante, par tout ce que vous avez de cher, mon enfant, n'en faites rien. N'écrivez pas, ne sollicitez pas, ne demandez rien à personne, je vous en conjure. Faites-vous oublier. Comme elle ne semblait pas pénétrée de ce qu'il disait, il se fit plus suppliant encore. Gardez le silence, Rose, faites-vous oublier. Là, elle salue. Tout ce que vos amis tenteraient ne ferait que rater de votre perte. Gagnez du temps, il en faut peu, très peu, j'espère, pour vous sauver. Surtout n'essayez pas d'émouvoir les juges, les jurés, un gamelin. Ce ne sont pas des hommes, ce sont des choses. On ne s'explique pas avec les choses. Faites-vous oublier. Si vous suivez mon conseil, mon ami, je mourrai heureux de vous avoir sauvé la vie. Elle répondit. Bien, je vous obéirai, mais ne parlez pas de mourir. Il haussa les épaules. Ma vie est finie, mon enfant. Vivez et soyez heureuse. Elle lui prit les mains et les mit sur son sein. Écoutez-moi, mon ami, je ne vous ai vu qu'un jour et pourtant vous ne m'êtes point indifférent. Et si ce que je vais vous dire peut vous rattacher à la vie, croyez-le, je serai pour vous tout ce que vous voudrez que je sois. Et ils se donnèrent un baiser sur la bouche à travers la grille. Chapitre 20. Évariste Gamelin, pendant une longue audience du tribunal, à son banc, dans l'air chaud, ferme les yeux et pense. Les méchants, en forçant Marat à se cacher dans les trous, en avaient fait un oiseau de nuit, l'oiseau de Minerve, dont l'œil perçait les conspirateurs dans les ténèbres où il se dissimulait. Maintenant, c'est un regard bleu, froid, tranquille, qui pénètre les ennemis de l'État et dénonce les traîtres avec une subtilité inconnue même à l'ami du peuple, endormi pour toujours dans le jardin des Cordeliers. Le nouveau sauveur, aussi zélé, plus perspicace que le premier, voit ce que personne n'avait vu, et son doigt levé répand la terreur. Il distingue les nuances délicates, imperceptibles, qui séparent le mal du bien, le vice de la vertu, que sans lui on eût confondu, au dommage de la patrie et de la liberté. Il trace devant lui la ligne mince, inflexible, en dehors de laquelle il n'est à gauche et à droite qu'erreur, crime et scélératesse. L'incorruptible enseigne comment on sert l'étranger par exagération et par faiblesse, en persécutant les cultes au nom de la raison et en résistant au nom de la religion, aux lois de la République. Non moins que les scélérats qui molèrent les pelletiers marats, ceux qui leur décernent les honneurs divins pour compromettre leur mémoire, servent l'étranger. Agent de l'étranger, quiconque rejette les idées d'ordre, de sagesse, d'opportunité. Agent de l'étranger, quiconque outrage les mœurs, offense la vertu, et dans le dérèglement de son cœur, nie Dieu. Les prêtres fanatiques méritent la mort, mais il y a une manière contre-révolutionnaire de combattre le fanatisme. Il y a des abjurations criminelles. Modéré, on perd la République. Violent, on la perd. Oh, redoutable devoir du juge, dicté par le plus sage des hommes. Ce ne sont plus seulement les aristocrates, les fédéralistes, les scélérats de la faction d'Orléans, les ennemis déclarés de la patrie qu'il faut frapper. Le conspirateur, l'agent de l'étranger, est un protée. Il prend toutes les formes, il revêt l'apparence d'un patriote, d'un révolutionnaire, d'un ennemi des rois. Il affecte l'audace d'un cœur qui ne bat que pour la liberté. Il enfle la voix et fait trembler les ennemis de la République. C'est Danton, Sa violence cache mal ses odieux modérantismes et que sa corruption apparaît enfin. Le conspirateur, l'agent de l'étranger, c'est ce bègue éloquent qui mit à son chapeau la première cocarde des révolutionnaires. C'est ce pamphlétaire qui, dans son civisme ironique et cruel, s'appelait lui-même le procurateur de la lanterne. C'est Camille Desmoulins. Il s'est décelé en défendant les généraux traîtres et en réclamant les mesures criminelles d'une clémence intempestive. C'est Philippot, c'est Hérault, c'est le méprisable Lacroix, le conspirateur, l'agent de l'étranger, c'est ce père Duchesne qui avilit la liberté par sa basse démagogie et de qui les immondes calomnies rendirent Antoinette elle-même intéressante. C'est Chaumette qu'on vit pourtant doux, populaire, modéré, bonhomme et vertueux dans l'administration de la commune, mais il était athée. Les conspirateurs, les agents de l'étranger, ce sont tous ces sans-culottes en bonnet rouge, en carmagnole, en sabots, qui ont formellement renchéri le patriotisme sur les Jacobins. Le conspirateur, l'agent de l'étranger, c'est Anacharsis Clootz, l'orateur du genre humain, condamné à mort par toutes les monarchies du monde. Mais on devait tout craindre de lui, il était prussien. Maintenant, violents et modérés, tous ces méchants, tous ces traîtres, Danton, Desmoulins, Hébert, Chaumette, ont péri sous la hache. La République est sauvée. Un concert de louanges monte de tous les comités, de toutes les assemblées populaires, vers Maximilien et la montagne. Les bons citoyens s'écrient. Dignes représentants d'un peuple libre, c'est en vain que les enfants des titans ont levé leur tête altière. Montagne bienfaisante, Sinaï, protecteur, de ton sein bouillonnant est sortie la foule salutaire. En ce concert, le tribunal a sa part de louange. Qu'il est doux d'être vertueux et combien la reconnaissance publique est chère au cœur du juge intègre. Cependant, pour un cœur patriote, quel sujet d'étonnement et quelle cause d'inquiétude, quoi ! Pour trahir la cause populaire, ce n'était donc pas assez de Mirabeau, de Lafayette, de Bailly, de Pietro, de Brissot. Il y fallait encore ceux qui ont dénoncé ces traîtres. Quoi ! Tous les hommes qui ont fait la Révolution ne l'ont faite que pour la perdre. Ces grands auteurs des grandes journées préparait avec Pitt et Cobourg la royauté d'Orléans ou la tutelle de Louis XVII. Quoi, Danton, c'était Monck. Quoi, Chaumette et les hébertistes, plus perfides que les fédéralistes, qu'ils ont poussés sous le couteau, avaient conjuré la ruine de l'Empire. Mais parmi ceux qui précipitent à la mort les perfides, Danton et les perfides, Chaumette, l'œil bleu de Robespierre, n'en découvrira-t-il pas demain de plus perfides encore? Mais où s'arrêtera l'exécrable enchaînement des traîtres trahis et la perspicacité de l'incorruptible? Telles étaient les pensées de Gamelin.